FM.
Pierre Benoît présente la chronique de Clic-Clac-Topette. Les 4 et 5 juillet 1978, la passion entre l'Anjou et le Tour de France atteint son paroxysme en faisant du tout petit village de Mazé et de ses 2500 habitants de l'époque une ville-étape du Tour. D'aussi grands noms du cyclisme devenus depuis des légendes de la Grande Boucle vont donc stationner au château de Montgeoffroy en attendant le départ vers Poitiers le lendemain. Ce tour est marqué par des événements uniques, inédits et jamais reproduits depuis dans le Tour de France. Comme cette grève des coureurs sur la 12e étape ou la première victoire du jeune Bernard Hinault à 23 ans seulement alors qu'il participe pour la première fois à cette compétition mythique. Mais comment Mazé a pu prétendre retenir le Tour de France le temps d'une étape? Tout est dû à son maire et marquis, Arnold de Contade, propriétaire du château de Montgeoffroy et directeur adjoint du très célèbre magazine Paris Match. Afin de mettre en lumière son château familial et son petit village, il a fait jouer ses relations parisiennes pour que Mazé soit au centre de l'attention médiatique le temps d'une étape. Découvrez avec Clic-Clac la folle aventure de Mazé, ville-étape du Tour.
Bonjour, moi c'est Clic-Clac. Je suis curieux de tout et j'aime l'aventure. Un jour, dans le grenier, j'ai découvert une très vieille carte postale en noir et blanc. Je l'ai retournée et en lisant ce qui était écrit à l'arrière, c'est comme si j'avais voyagé dans le temps. Depuis, je prends ma bicyclette, mon appareil photo et j'explore l'Anjou pour découvrir des lieux et des histoires surprenantes pour créer mes propres cartes postales. Je prends tellement de photos que tous les copains m'appellent Clic-Clac. Ils disent que c'est le bruit de mon appareil photo. Du coup, moi je dis que c'est aussi le bruit du temps et des histoires qui passent.
Clic-Clac, comme à son habitude, pédale dans la campagne angevine. Aujourd'hui, il n'a pas école et Madame Pascot ne lui a donné aucun devoir pour demain. Donc, avec son appareil photo, il se promène et guette le moindre petit recoin de l'Anjou qui pourrait éveiller sa curiosité en dévoilant un morceau oublié d'histoire.
Attention à toi, gamin!
Il se retourne pour voir qui vient de l'interpeller. Mais à peine a-t-il entamé son mouvement qu'il se fait surprendre par un peloton entier de cyclistes qui fusent en passant à sa hauteur. Il est tellement surpris qu'il est déséquilibré et risque de tomber dans le fossé d'à côté.
Je vais les rattraper pour faire la course avec eux!
Et il pédale, pédale, pédale encore et toujours plus fort!
Ma parole, mais c'est quoi leur vélo?
Clic-Clac est à bout de souffle. Et finit par s'arrêter totalement pour reprendre des forces.
Mais qu'est-ce que c'est que ce château?
Un peu en retrait, le long de la route, il aperçoit une magnifique demeure harmonieuse et symétrique, entourée d'un parc splendide et des grandes allées d'arbres qui définissent des voies d'accès au château.
On dirait presque Versailles. Mais qui sont ces gens?
Devant le monument, un groupe de visiteurs sort de l'édifice, accompagné d'un guide qui semble être en train de terminer son tour de visite.
Je le connais! C'est le guide du château de Baugé.
Il se porte à sa rencontre.
Bonjour monsieur, vous me reconnaissez? Je suis Clic-Clac, l'élève de Madame Pascot. Vous m'aviez fait visiter le château de Baugé.
Bonjour, bien sûr Clic-Clac que je me souviens de toi. Comment vas-tu? Tu es venu visiter le château de Montgeoffroy?
Pourquoi pas, oui. Je connais pas, mais je veux bien.
Ah mais attends, je n'ai pas dit que je...
Clic-Clac regarde naïvement le guide, qui finit par céder.
Bon, d'accord. Allez, suis-moi, on va commencer par le parc.
Et les voilà, qui déambulent dans cet immense jardin à la française de 35 hectares. Le guide explique.
Le domaine de Montgeoffroy et son histoire récente depuis le XVIIIe siècle est étroitement lié à la famille de ses propriétaires, les marquis de Contade. Mais avant cela, déjà un premier grand nom a possédé ces terres, le seigneur Geoffroy de Chateaubriand, un des ancêtres du très célèbre écrivain. La famille de Contade est anoblie en 1619.
Un an avant que Louis XIII vienne à Sorge livrer bataille contre sa mère Marie de Médicis.
Oui, peut-être.
Il y a un petit instant de répit pendant lequel Clic-Clac espère que le guide surenchérisse, mais celui-ci est en train de réaliser que ce gamin en sait parfois plus que lui sur l'histoire. Bref, il continue.
Parmi les deux Contade, l'histoire a surtout retenu Louis-Georges Erasme.
Pourquoi?
Eh bien, pour deux raisons principalement. D'abord, il était maréchal de France et commandant en chef des armées de Louis XV. et ensuite parce que c'est lui qui a ordonné la reconstruction du château de Montgeoffroy dans le style qu'on lui connaît aujourd'hui.
La famille de Contade est une très vieille famille de l'Anjou, anoblie en 1619, et qui acquiert le domaine de Montgeoffroy en 1676 avec Érasme de Contade. Les membres de la famille servent dans les armes et demeurent principalement sur Paris ou sont en campagne militaire. Le domaine de Montgeoffroy n'est encore qu'un petit château de villégiature sans grande envergure. C'est Louis-Georges Érasme de Contade qui va le sublimer et en faire la demeure principale de la famille ainsi que l'une des plus grandes réalisations architecturales de l'Anjou à l'époque. La particularité et la singularité de cet édifice comparé à d'autres est d'être resté quasiment intact et dans son jus depuis sa construction. En effet, la famille de Contade en est toujours propriétaire. Pour la petite histoire, l'une des filles de Louis-Georges Érasme sera la marraine de René de Chateaubriand. L'histoire se tient parfois dans un mouchoir de poche.
C'est un très joli château, on s'y sent bien.
Et la famille de Contade continue de mettre en avant leur belle demeure.
Comment ça ?
Au moment où le guide va pour répondre, leur attention est détournée par un peloton de cyclistes qui passent sur la route.
En faisant du vélo par exemple.
Hein ? Je comprends pas.
Ils ont fait venir le Tour de France dans leur château en 1978.
Ah bon ? Mais comment ils ont fait ?
Honnêtement, le cyclisme c'est vraiment pas une passion pour moi. Par contre, il y a une course au village à Mazé. Je pense que là-bas, les gens pourront éclairer un peu plus que moi.
C'est pour ça que je vois plein de vélos passer depuis tout à l'heure. Bon, je vais tenter de les rattraper cette fois et je leur demanderai ce qu'ils savent du Tour de France de 1978. Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir fait cette visite.
Topette.
Et il remonte en selle, renfonce son béret sur la tête, resserre la lanière de son appareil photo.
Un moment, je vais quand même faire une photo du château pendant que j'y suis.
Il repasse son appareil autour du cou et s'enfuit en direction de Mazé, dans l'espoir de rattraper les cyclistes.
Numéro 213, Martin Despierres. Numéro 115, Vincent Perrault.
Dans une ambiance d'arrivée du Tour de France, mais en miniature, Clic-Clac déboule sur la place centrale à Mazé, qui pour l'occasion est agrémentée de stands sandwich, d'une buvette, d'établis de réparation de roues crevées et d'une grande banderole de ligne finish avec des haut-parleurs qui annoncent les derniers arrivants.
Numéro 97, Victor Baudouin.
Qui est-ce que je pourrais aller voir pour poser mes questions ?
Nos derniers coureurs sont donc arrivés, ils vont pouvoir se reposer maintenant. En attendant, on se retrouve dans 30 minutes pour la montée du podium.
Le speaker ! Lui, il doit tout savoir sur les vélos et le Tour de France.
Il décide de suivre les fils du haut-parleur pour retrouver le commentateur. Il passe derrière le camion à fouet, revient sur le stand de réparation, navigue entre les points de restauration des cyclistes et termine à l'arrière d'une petite fourgonnette ouverte sur la place et surmontée d'une parabole. Clic-clac s'approche du véhicule dans lequel un homme raccroche son casque autour du micro et s'assoit sur une petite banquette entre plusieurs appareils électroniques pour manger.
Bonjour monsieur ! Je vais pas vous déranger longtemps, j'aimerais avoir des informations sur le Tour de France.
L'homme, qui avait ouvert la bouche pour avaler son sandwich, s'arrête et regarde crédulement Clic-Clac.
Mais petit, ce n'est pas le Tour de France aujourd'hui.
Je sais, mais on m'a affirmé que le Tour était déjà passé ici en Anjou.
Mais bien sûr qu'il est passé en Anjou, il est même passé à Angers et à Saumur pour la toute première édition.
Vraiment ? Vous pouvez me raconter ça ?
Le speaker semble à la fois surpris et amusé par les circonstances. Il a faim ? Il doit reprendre le micro dans 30 minutes et un enfant vient lui poser des questions sur le Tour de France. Mais il se prête gentiment au jeu.
Alors, sache que l'Anjou et le Tour de France, c'est une très vieille histoire d'amour. Presque en même temps que l'invention du vélo, on a décidé d'inventer une immense compétition sportive pour faire faire le tour de notre joli pays aux cyclistes.
C'était en quelle année ?
La première édition, c'était en 1903 et le succès populaire a été immédiat, hein. Donc on a recommencé chaque année.
Et le Tour est passé combien de fois dans le département ?
Dans les années d'après-guerre jusqu'en 1980, la Grande Boucle est passée plus d'une dizaine de fois à Angers ou une grande ville du Maine-et-Loire. Une trentaine de fois, je dirais.
L'Anjou est resté pendant très longtemps indissociable du Tour de France. Il y a eu les Première et Deuxième Guerres mondiales qui ont bien évidemment suspendu la compétition. Mais l'alchimie a repris immédiatement après. Des années 50 aux années 80, les cyclistes du monde entier et au grand nom sont passés par le département. Pendant plus de 20 ans, l'Anjou était sur la route du Tour presque une année sur deux. Mais pour qui, pourquoi ? À partir des années 80, le Maine-et-Loire, et l'Ouest en général, ont été un peu délaissés par les organisateurs au profit d'autres régions. Le tour a continué de passer, mais de manière plus sporadique. Entre 1979 et aujourd'hui, Angers a été ville-étape que deux fois seulement, en 2004 et en 2016.
Mais pourquoi les gens veulent que le Tour de France passe chez eux ? Ils peuvent aussi le regarder à la télé ?
Ça, il y a plusieurs raisons pour ça. Hein. D'abord, le Tour de France est parmi ces événements sportifs auxquels les gens aiment assister. Il y a une sorte de communion qui se crée pendant l'été autour des cyclistes. Ensuite, c'est l'événement télé le plus retransmis au monde. Il y a 3,5 milliards de téléspectateurs chaque année. Donc on imagine que lorsqu'une ville est choisie comme ville étape, ça lui fait un gros coup de pub. Et d'autant plus que les inconditionnels du vélo font le déplacement pour venir voir leur coureur préféré.
Je vois.
Et c'est pas toujours bon non plus, hein. Il y a des ratés.
Comment ça ?
En 1998 par exemple, Cholet était une ville étape du Tour et espérait bénéficier du coup de projecteurs sur son agglomération pour attirer les entrepreneurs. Mais à la ligne d'arrivée, les gendarmes ont emmené en garde à vue le directeur et le médecin d'une équipe pour les interroger sur une affaire de dopage.
Oh.
Oui, et pour le coup, l'attention des médias s'est principalement portée sur l'affaire et non plus sur l'événement sportif ou sur les localités franchies.
Alors que les Mauges se félicitent d'accueillir la grande boucle parmi leurs vallons et leurs ruisseaux, une terrible affaire vient frapper le Tour. Tout commence le 8 juillet 1998, bien loin de là, à la frontière belge sur une route sans importance. Les douaniers contrôlent un véhicule de l'équipe cycliste Festina. Il s'agit d'une simple formalité, mais le conducteur semble agacé et insiste pour repartir. Ce qui attise évidemment la curiosité des agents et ils décident donc d'effectuer une fouille complète de la voiture. Dans le coffre, ils tombent sur une panoplie de produits stupéfiants et dopants parfaitement illégaux. Une enquête est ouverte et les autorités publiques lancent les investigations. L'affaire est plutôt discrète au départ, mais prend un tournant médiatique de grande ampleur le soir où, à la ligne d'arrivée à Cholet, les gendarmes viennent interpeller le directeur et le médecin de l'équipe. L'écrasante machine journalistique se met en branle et les Mauges sont totalement oubliés.
Triste affaire.
Oui, triste affaire, mais c'est rarement ainsi.
Clic-clac digère gentiment toutes ces nouvelles informations pendant que le speaker à côté profite, lui, de cette accalmie pour croquer son jambon beurre. Puis, Clic-clac fait le lien.
Ah, je comprends mieux pourquoi la famille de Contade a fait venir le Tour de France dans son château de Montgeoffroy. Ça leur faisait un incroyable coup de pub.
Ah, mais t'en sais finalement des choses. Oui, Mazet a été une ville-étape du Tour en 1978. C'était incroyable de voir un aussi petit village accueillir cet événement.
Mais alors, comment ils ont fait pour que le Tour s'arrête ici ?
Je crois que le Marquis était aussi maire de Mazet à cette époque. Mais attends.
Le commentateur se lève et farfouille dans un casier plein de vieilles cassettes vidéo.
Ah, voilà, c'était un reportage qui avait été fait sur le Tour en 1978.
Il laisse la cassette se faire engloutir par un magnétoscope et allume une des télés.
Il y a 10 ans déjà, les 4 et 5 juillet 1978, Mazet devenait le plus petit village ayant jamais accueilli une étape du Tour de France. Ce Tour 78 vaut aussi les premiers pas dans la grande boucle du jeune, puisqu'il n'a que 23 ans, et très prometteur Bernard Hinault. Autre fait marquant, c'est cette grève des coureurs sur la 12e étape qui proteste contre le temps de transport entre les étapes et les horaires de départ. Pour marquer le coup, après une course au ralenti, ils descendent de vélo pour terminer les 100 derniers mètres ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Et surtout, ce petit village de Mazet accueille pour lui tout seul le Tour, le temps d'une étape entre les 4 et 5 juillet. Les habitants en fourmillent dans tous les sens pour assurer l'événement et se montrent tous très gratifiants envers le maire, Arnold de Contade, marquis et propriétaire du château de Montgeoffroy, devant lequel s'élancent les cyclistes pour repartir vers Poitiers le matin du 5.
En 1978, Arnold de Contade, étant directeur adjoint de Paris Match, il ne fait pas de doute que sa demande pour faire venir le Tour de France jusqu'à Mazet et en faire une ville-étape concurrençant Angers aura eu du poids dans la balance décisionnaire des organisateurs du Tour.
Et voilà, tu sais tout du Tour de France de Mazet en 1978.
Clic-clac remercie chaleureusement le speaker. Pendant que les vainqueurs montent sur le podium, lui, il reprend la route d'Angers en longeant à nouveau le château de Montgeoffroy, qu'il ne met pas beaucoup de temps à dépasser. Pendant qu'il pédale, il se dit que...
L'histoire est aussi éphémère qu'un peloton du Tour de France. Il passe et disparaît rapidement, mais laisse une marque profonde dans les mémoires. Pas bête !
Chronique écrite et réalisée par Pierre Benoît. Un grand merci à François Milon d'avoir proposé ce sujet, qu'il expose plus en détail sur le site internet de Papy Louis. Merci à Sophie pour la voix de Clic-Clac, au grand Willy pour son retour sur la chronique, à Bruno et à ses multiples compétences qui ont rendu service à Clic-Clac Topette, et à Jean-François qui rappelle que rien ne peut taire une passion, même pas le temps qui passe. Merci surtout à tous les auditeurs des chroniques qui vont bientôt pouvoir découvrir le site internet de Clic-Clac Topette. Rendez-vous lundi dans 2 semaines à 13h sur le 101.5 Topette.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights. All shame, I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Iron shots stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the fast, the number of days, the rising of the horns.